aujourd'hui un sujet que je vous propose de développer qui serait le début, l'ABC d'un sujet qui est très, très, très vaste, tellement vaste qu'il va remplir l'éternité. Et si je pouvais donner un sujet à ce premier volet de cette longue série qu'il vous appartiendra de poursuivre, de développer, c'est « Dessine-moi l'Église ». Peut-être que c'est un sujet que je pourrais développer avec les enfants, mais ne sommes-nous pas des enfants de Dieu? Donc je répète, « Dessine-moi l'Église ». Mais avant cela, j'aimerais avoir une supplication à vous adresser. Quand nous entendons la prédication de la parole de Dieu, quel que soit celui qui en est le porteur, qu'il soit pasteur, prêtre, un grand évangéliste connu et reconnu dans le monde entier, soyons comme des hommes et des femmes du livre, de la parole de Dieu, qui ne nous laissons pas entraîner à toutes sortes de doctrines. Soyons comme, et le modèle qui nous est présenté dans le livre des Actes des Apôtres, écrit par l'évangéliste Luc lui-même, dans la même période, plus ou moins 60 ans après Jésus-Christ, il nous est parlé de deux hommes, pourtant des éminents prédicateurs, Paul et Silas, qui dans leur voyage sont arrivés à Thessalonique, et puis là, les chrétiens, les juifs d'alors, ont essayé de mettre la main sur ces deux prédicateurs, parce que Paul essayait de convaincre les gens que Christ, qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, n'était autre que le Messie promis, qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Ces hommes, ces juifs de Thessalonique, ont essayé de mettre la main sur Paul et sur Silas. Ils ont mis la main sur la personne qui les avait accueillis, et Jason, et voilà que, grâce à Dieu, Paul est parti vers Bérée, toujours animé par ce désir profond d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Et voilà ce qu'il nous est dit de ces chrétiens qui étaient à Bérée. Et je lis cela dans Actes chapitre 17, et je lis au verset 10. Acte 17, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ces Juifs de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, beaucoup de joie. Et ils examinaient, c'est cela que je voudrais souligner pour chacun de nous ce matin, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qui leur était dit était vrai, exact. Ne prenez pas comme monnaie courante ce que vous allez entendre de ma bouche, mais soyez audacieux, honnête, pour vérifier ce qui sera proclamé avec crainte devant le Seigneur est exact, selon sa pensée. Ne soyons pas des enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine, mais refusons de dire « Il l'a dit, donc c'est vrai ». Mais prenons l'habitude d'examiner ce qui a été dit à la lumière de la parole de Dieu qui seul doit faire autorité dans notre foi et dans notre vie ici-bas. Soyez des hommes du livre. Soyez bien-aimés, soyons des Béréens. Je serais tenté de dire, soyons des Glétois, c'est comme ça qu'on dit, pour les habitants de Glin. Non. Voilà. Donc, résumons en disant, quand on parle, soyons des Bériens, soyons des Glintois ou des Glintoises, soyons bien-aimés des hommes et des femmes du livre sacré que Dieu a inspiré et a permis que ce livre de la Bible nous soit donné, nous soit entre les mains. Aujourd'hui, beaucoup de mots ont perdu de leur sens. Ainsi, au camp de Genval, voici déjà maintenant 15 ans, hein, je me suis entendu dire, t'as une pêche d'enfer. Ah, bon. Mais non, je suis promu pour le paradis. T'as des souliers d'enfer. Quoi? Ne faudrait-il pas remettre la valeur des mots à leur place? Tu kiffes grave ta meuf. Ah bon? J'étais prêt à faire comme cela. Je me dis, il va me frapper ce gosse. Ben non, il voulait simplement dire que j'apprécie beaucoup ma copine ou mon épouse. Et puis récemment, l'année passée ou là, il y a 2 ans, on me dit, t'es lourd, Daniel. Ah bon, ben, c'est vrai que je suis lourd. Ben, ok. En fait, il voulait simplement dire que j'étais un type génial, j'étais un type cool. Bon, ok. Et on pourrait ainsi allonger le sens des mots qui, au fil du temps, ont changé. Sans compter tout ce que nous recevons sur les GSM, MDR, LOL, QDTV, voilà, bon, voilà, il faut presque un lexique pour suivre ce qu'on nous écrit, tout aussi bon soit-il. Faisons bien aimé attention à des mots que Dieu lui-même a inscrits dans la parole de Dieu et qui sont parfois bannis de notre vocabulaire. Pas chez nous, mais dans certaines églises, c'est banni. Le mot du péché, allez, dans un monde aujourd'hui tellement ouvert, est-ce qu'on ose encore parler que nous sommes pécheurs, sauvés par grâce, qui a le péché? Le mot repentance, qu'est-ce que ça va encore dire? Le dictionnaire l'a même supprimé. Maintenant, il est revenu, grâce à Dieu, mais enfin, on l'a supprimé. J'ai noté ici la nouvelle naissance. Ah oui, on veut naître de nouveau, mais sans passer par la croix. Le baptême, qui est un mot francisé venant du grec, qui veut dire plonger, ça n'a plus de sens. Ainsi donc, il y a des mots de la parole de Dieu qui ont été falsifiés, qui ont perdu la notion même que Dieu leur a donnée dans la parole de Dieu. Ce matin, je désire revisiter un de ces mots avec vous, qui fait partie d'un projet merveilleux, glorieux de Dieu, qui est vaste, de sorte que nous allons simplement voir les quelques premiers soubresauts de ce sujet, qui est l'Église, qui est précieuse aux yeux de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, unis de toute éternité dans la gloire, et qui, de commun accord, ont décidé de se prendre leur délice parmi les fils des hommes. Ceux qui, comme on l'a souligné, ceux qui étaient parmi les épines, qui étaient des buissons d'épines, et je serais tenté de dire ceux qui étaient un troupeau de hérissons. On se piquait les uns les autres. Et Dieu a pris plaisir à venir dans ce monde d'épines pour faire de nous un peuple de moutons. Comme c'est doux quand on saisit la pensée de Dieu quant à l'Église, de se frotter à de la laine plutôt qu'à des épines de hérisson. Dieu, Père et Saint-Esprit unis, chacun dans leur rôle, Dieu le Père qui donne son Fils bien-aimé, le Fils qui vient vers une terre en révolte contre lui, contre Dieu, une terre de pécheurs, une terre de péché. Et c'est sur cette terre que Jésus-Christ a été livré pour chacun de nous. Le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur est rentré dans la gloire, le Saint-Esprit a été donné suite à la prière du Seigneur au Père. Ce Saint-Esprit qui, plus que de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, plus que de nous convaincre que, comme la parole de Dieu a été soulignée, que nous étions des buissons d'épines, a dirigé nos pensées vers celui qui en était qui pouvait nous délivrer de ce péché et nous donner un avenir merveilleux. Le Saint-Esprit, quand il fait autorité dans nos vies, nous transforme de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur Jésus. Ce Saint-Esprit qui a pour mission de rassembler tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ et les amener dans un corps qui est l'Église, qui est précieuse aux yeux de Dieu. Et voilà ce que l'apôtre Paul, mais cela devrait faire partie d'un autre volet, parce que tout englobé en une seule prédication, c'est difficile, mais simplement pour souligner que le Saint-Esprit nous a été donné. Et voilà ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors que l'apôtre est en train de esquisser une des métaphores de l'Église, à savoir le corps, mais il y en a d'autres de métaphores, hein, l'épouse, la fiancée, la maison, le temple. Voilà, il y a plein d'images qui seraient intéressantes à étudier pour discerner quelle est la beauté et à quoi nous sommes appelés à vivre ensemble. Et voilà ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Et pourtant, l'Église de Corinthe n'est pas une Église modèle. Elle n'est pas une Église modèle. Elle était divisée. Et Paul dit que tous les membres sont utiles. Nous devons prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et voilà ce qu'il nous est dit au verset 13. Car nous avons tous été immergés, plongés, baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, c'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et baptisés, immergés, plongés. Nous n'avons, bien aimé, aucune difficulté à penser que quand Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire, il portait portait les péchés de toute l'humanité. Passé, présent, futur. Tout a été accompli pour notre délivrance. Il a expié tous nos péchés. Et ceux qui sont pardonnés réellement sont ceux qui confessent qu'ils sont pécheurs devant Dieu. Et Dieu dit, mais j'ai tout accompli. Mais je te pardonne. Mais c'est notre démarche de venir vers le Seigneur Jésus et lui dire, oh, comme tu es merveilleux dans ton œuvre à la croix du calvaire pour moi. Et dès lors, au même titre que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort pour nous sur la croix du calvaire, a supporté les péchés du monde entier, lorsque lors de la première Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, sachons ceci, c'est qu'à cette Pentecôte, Dieu voyait tous les rachetés du Seigneur Jésus. Tous ceux qui allaient venir au Seigneur Jésus. Il les rassemblait déjà dans ses pensées, dans son cœur, en un seul corps, qui est l'Église. Vous allez me dire, on parle d'un seul corps, je suis étonné qu'on parle que d'un seul corps. Et là aussi, ça fait partie d'un autre sujet. Voilà, on ne s'est pas tout englobé. Je dis, je mettais ici les quelques petites miettes concernant ce sujet très vaste. Vous allez me dire, tiens, comment ça se fait qu'on parle d'un seul corps, alors qu'il y a tellement d'églises, ci et là, dans chaque village. Alors, il faudrait bien sûr parler d'églises locales et d'églises universelles que Jésus construit. L'église locale devrait refléter le caractère de Christ, c'est-à-dire le caractère de l'église universelle, de ceux qui sont réellement sauvés par grâce et que le Seigneur a ajouté à son corps. Pour vous faire comprendre ce qu'est l'église universelle, c'est, voilà, dans l'église locale, nous avons appris qu'il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui s'est endormie dans le repos de son Seigneur, qui est maintenant non plus sur cette terre, bien que son corps y soit, mais qui est rentré dans le repos, et dès lors, elle ne fait plus partie de l'église locale. Alors que elle fait toujours partie de l'église universelle. Ceci pour nous faire comprendre que, voilà, il y a quelques petites nuances qui seraient intéressantes à élaborer, mais voilà, on s'arrêtera là. Et je voudrais aussi ajouter que l'Église ne se substitue surtout pas à Israël. On peut ne pas, on est en désaccord avec tout ce qui s'y passe et que Israël provoque. On est en désaccord, mais rappelons-nous que l'Église ne remplace pas Israël. Il suffit de relire Romains chapitre 11 où l'apôtre Paul, qui est juif, lui, pouvait dire « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Non, loin de là. Donc, par contre, je pense, et nous allons développer ce sujet, que le cœur de Dieu pour Israël n'a pas changé et qu'il est le même pour l'Église, qui est une parenthèse dans son histoire. Quand je regarde Zacharie, chapitre 2, chapitre 8, oui, il y a beaucoup de références, Zacharie, chapitre 8, et voilà ce qu'il nous est dit à la fin du verset 8. Voilà. Soyons des hommes et des femmes du livre qui prenons le soin de vérifier ce qui est proclamé. Zacharie chapitre 8 et au verset 8. C'est aussi dans le chapitre 8, mais j'ai pris comme référence le chapitre 2 et au verset 8. Et je lis la fin de ce verset. Il parle du peuple d'Israël. Celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, pardon. Quand vous voyez Matthieu, vous êtes passé, hein, pour revenir en arrière. Malachie, puis Zacharie. Chapitre 2 et au verset 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations, nous, qui vous ont dépouillé. Là aussi, ce sont des paroles difficiles à entendre. Heureusement qu'elles sont de Dieu. Et voilà ce que Dieu dit à Israël, celui qui vous touche la prunelle de mon œil. Je ne sais pas si vous avez déjà eu de la poussière, un petit grain de sable dans l'œil, pour constater combien ça fait mal. Quand quelqu'un touche à Israël, il fait mal au cœur de Dieu. Malgré que nous soyons en désaccord. Et Dieu le dira à plusieurs reprises. Un peuple qui est ingrat, un peuple qui est rebelle, un peuple qui est médisant, querelleur, qui, alors que Dieu a exercé sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde envers lui, dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Ils ont été délivrés par la main de Dieu d'un pays d'esclavage, d'un tyran qui en voulait à leur vie. Et dans le désert, malgré qu'ils recevaient en abondance la manne, que l'eau sortant du rocher les suivait, qu'ils ont demandé de la viande, Dieu leur a envoyé des cailles en abondance. Leurs souliers ne s'usaient pas pendant 40 ans, essayez d'imaginer, les choupos qui feraient faillite. Dieu pourvoyait. Ils étaient dans le désert. Et le peuple a oublié la bonté de Dieu. Au point que parfois, ils voulaient rentrer dans l'esclavage, retourner pour manger de l'ail. Nous, à Pâturage, on avait un frère qui se nourrissait d'ail 3 éclats par jour, mais le dimanche, on savait qu'il était là. À un moment donné, Dieu les a, par amour, punis en leur envoyant des serpents qui brûlaient. Et Dieu leur a donné le moyen d'en sortir. Il suffisait de regarder à une perche sur laquelle Moïse avait installé un serpent d'airain, figure du Seigneur Jésus, qui allait devenir péché pour nous, et que le Seigneur Jésus reprendra dans sa conversation avec Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix du calvaire et soit fait péché. Subissent votre condamnation. Bien-aimé, le peuple est maintenant proche du pays promis. Il n'a plus qu'un seul, une seule contrée à traverser. Cette contrée, c'est la contrée de Moab. Et le chef de l'époque, Barak, on va le trouver pour voir si on peut passer. Et en réponse, il fait appeler un devin. Balaam, pour dire, voilà, Barak dit à Balaam, tu dois maudire le peuple. Aura-t-il l'occasion de maudire le peuple? Non. Balaam dira, ce que Dieu a béni, je ne peux pas le maudire. Ce que Dieu a béni dans l'église, je ne peux pas le maudire. Je ne peux pas la critiquer, l'Église, qui est chère au cœur de Dieu. Même si ce qui se fait n'est pas selon le cœur de Dieu. On peut, hein, dire les choses. Et lorsque devant Moab et Balaam, qui ont refusé de traverser, où Balaam ne sait pas maudire le peuple parce que Dieu l'a béni. Écoutez le cœur de Dieu dire dans Nombre chapitre 24 et au verset 5. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Qu'elles sont belles tes demeures, ô Israël. Quoi? Pendant 40 ans, ce peuple a monté, démonté, remonté les tentes. Et n'aurait-elle pas les coûts de ce voyage? Quoi? De manière morale, ce peuple était resté fidèle à Dieu? Et pourtant, le cœur de Dieu de dire que tes tentes sont belles, ô Israël. Je reprends le livre des Cantiques, le meilleur des Cantiques de Salomon. Lorsqu'il parle de sa fiancée, ou lorsque la fiancée parle de son futur époux, elle parle aux filles de Jérusalem. Et elle dit ceci, « Je suis noie », Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle. » Je ne parle pas ici de notre sœur, de nos bien-aimés qui ont la couleur noire. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que nous sommes malades avec notre couleur blanche. Je parle de l'état du cœur. Je suis imparfait. L'Église n'est pas le paradis. Il y a des luttes, des combats. Mais je suis belle. Je suis belle. Et Salomon de répondre quelques chapitres plus loin, Cantique des Cantiques, chapitre 7 et au verset 6, il dira de sa bien-aimée, que tu es belle, ma bien-aimée, que tu m'es agréable, celle que j'aime et en qui je trouve tout mon plaisir. Dieu du haut du ciel a ouvert à trois reprises le ciel pour dire de son Fils bien-aimé, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir. » Mais quand par grâce nous sommes unis à Jésus-Christ pour former son corps qui est l'Église, un corps spirituel, Dieu, quand il regarde l'Église, peut-il dire, tu es belle, tu m'es précieuse, j'y trouve constamment mon plaisir, mes délices. Quoi? Dieu serait-il aveugle à tout ce qui s'y passe? Dieu serait-il sourd? Et ce que nous avons dit d'Israël, le cœur de Dieu n'a pas changé. Il reste le même pour dire la même chose de l'Église. Bien sûr, lorsqu'elle fait des faux pas, lorsque chacun de ses membres fait des faux pas, Dieu, plein de compassion, a les mains tendues pour constamment dire, reviens à moi, reviens, détourne-toi de tes fausses voies et reviens à moi. Rendez-vous à la croix du calvaire et confesse ton péché. Si nous confessons nos péchés, ça ne doit pas être une norme dans nos vies, mais l'exception dans nos vies. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous ramener dans la pleine lumière, dans la communion avec lui et avec les saints. C'est ce que les premiers versets du chapitre 1 de 1 Jean nous rappelle, d'être en communion avec le Père, avec le Fils, et d'être en communion avec nous. Dieu aurait-il changé quand il regarde les sept églises des derniers temps dépeintes dans Apocalypse chapitre 2 et 3? Il voit une certaine détresse dans ces églises. Et Dieu, dans son amour, de la rappeler à lui. Dieu va même jusqu'à dire ce que j'ai contre toi. Contre. T'es pas pour, contre. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens. Ressaisis cet amour que j'ai eu pour toi en Jésus-Christ. Repense-y. Reviens de tes mauvaises voies. À une autre église, il dit, tu laisses faire le mal en une femme Jézabel d'alors. Tu laisses faire le mal. Reviens. Reviens. Une église qui se pensait arriver. Moi, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur, du haut de la gloire, te dit, mais repens-toi. Et possède les mêmes yeux que moi j'ai sur toi. Est-ce que tu ne vois pas que tu es pauvre, aveugle et nu? Et Jésus, du haut du ciel, de redire à cette église, achète de moi un colis. Oh là là, c'est déjà l'heure de finir. Hein? Oui. Voilà. Je voudrais terminer alors par un beau verset qui nous rappelle l'amour de Dieu pour l'Église. Ce sera pour une autre occasion, voilà, la fin. Je suis seulement à la première page. Écoutez, quand on parle de Jésus-Christ et de l'Église qui est son corps, ça doit déborder, ça doit. Éphésiens chapitre 5 et au verset 25, qui est aussi un modèle à suivre pour nous les maris. Il y a aussi un modèle, hein, qui vous est donné aussi, nos épouses, hein. Mais, un modèle qui est placé devant nos yeux, qui est le modèle qui est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, et nous lisons au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ. Il y a donc un modèle à suivre. Mais nous allons bien sûr retenir l'expression de l'amour de Christ pour l'Église. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans rite, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus pour votre sauveur, vous êtes net. Vos péchés sont purifiés. Mais nous avons à mettre en pratique la sainteté que Dieu a déposée sur notre tête. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Mais nous sommes sur un chemin de progression et de sanctification. Et comme il le dit ici, par le lavage de la parole de Dieu, le baptême de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous inonder, que vous soyez imprégnés de cette parole, des hommes et des femmes, du livre, du Saint-Livre, afin de nous faire paraître saints et irréprochables. Y a-t-il, bien-aimé, plus beau projet que celui-là, que Dieu a en réserve pour nous? Je dois vous avouer que je n'ai jamais aimé l'Église. Et je le redis une deuxième fois à ma confusion, je n'ai jamais, toujours aimé l'Église. Et parfois aujourd'hui, Quand je vois ce qui s'y passe, mon cœur est loin de l'aimer. Et pourtant, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Qu'il mette une garde à notre langue pour ne pas blesser le cœur, la prunelle de l'œil de Dieu. J'allais vous poser quelques questions, je termine par là. Si je vous demandais, où vas-tu à l'église? Que répondions-nous? Quand vous dites que vous allez à l'église, vous allez vers quoi? Un bâtiment de briques, de pierre? Vous allez vers qui? Pour vous réunir avec qui? Et vous y allez comment? Avec des pieds de plomb ou avec joie? Vous y vivez l'église comment? Avec qui? Hier, vous avez nettoyé l'église. Le bâtiment ou le cœur de ceux qui se réunissent dans ce lieu? Récemment, le journal télévisé, vous avez sans doute entendu, disait au journal, on disait ceci, que l'on avait réparé le toit, le clocher d'une église. Et à cette occasion, j'ai été étonné d'entendre, maintenant, la vie de l'église va reprendre. Il est sans doute vrai que la vie sociale du quartier va reprendre parce que tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, ça va teinter. Et ces cloches étaient utiles pour ceux qui anciennement travaillaient dans les chambres, qui n'avaient pas d'horloge pour leur dire, allez, il faut venir au rassemblement. Mais faut-il déduire que la vie de Christ dépend de ce clocher? Loin de moi de dire que le bâtiment n'a pas d'importance, hein. Et nous bénissons le Seigneur pour ce bâtiment qui est coquet, qui est bien entretenu, qui sent frais, qui sent bon, et heureusement qui ne sent pas les WC. Donc soyons honnêtes. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est normal de dire de l'Église que c'est un bâtiment. D'évaluer l'Église en fonction de son programme d'activité, aussi original soit-elle. Quand le Seigneur dit « Les cieux et la terre passeront », heureusement que l'Église ne se rattache pas à un bâtiment en pierre, hein, qui est voué à disparaître, à s'user avec le temps. Jésus parlait de quelque chose qui allait demeurer éternellement, c'est-à-dire cette église, ce corps que lui-même construisait. Et voilà, je termine par un mot en disant, voilà, le mot église, ça fait aussi tout un sujet, voilà, c'est la page 2, c'est le mot église vient du grec ecclesia, voilà, vous le connaissez, composé de deux mots, ek, ecclesia. Ek, qui veut dire préfixe en français, ex, comme exclu, excommunion, extirpé, on retire hors de. Ecclesia, c'est appelé. Ainsi donc, l'Église, c'est l'appel que Dieu donne aux hommes pour être retiré de tout système humain, de tout système religieux, de toute institution, de tout ce que le monde peut proposer, de son esprit du monde. Il nous appelle pour nous rassembler en un seul corps, dont l'expression est ici dans ce bâtiment. Dessine-moi l'Église. Qu'est-ce que je verrais dans ce dessin? Si j'interrogeais les gens, la plupart des gens dessineraient un clocher, une croix. Mais rares sont ceux qui dessineraient une assemblée de personnes de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute couleur de peau, qui ont connu et répondu à l'appel du Seigneur et qui sont maintenant regroupés autour du Seigneur. En parlant de cette manière, voilà, je ne veux pas te demander à toi si tu vas à un office religieux, dessine-moi l'église, je te demande pas cela. Je te demande pas si tu chantes, tu pourrais mettre une Bible, un chant, je te demande pas ça. Je te demande pas au nom du Seigneur si tu lis ta Bible. C'est bien, c'est intéressant, je vous encourage à être des hommes et des femmes du livre. Je te demande pas si tu as été baptisé. Je te demande pas si tu participes au repas ou à l'Eucharistie. Je te demande pas ça. Je te demande pas si tu es issu d'une famille de chrétiens. Je te demande pas ça. Ça m'intéresse pas. Je te demande dans quelle relation tu es avec Jésus-Christ. Si la vie de Christ abonde en toi et si elle est communicative, alors tous ceux qui vivent de Christ se rassemblent pour louer celui qui est l'auteur de notre salut et de notre vie éternelle. Je te demande pas non plus si ton nom est écrit dans un registre d'une église, hein. Mais je te demande si ton nom est écrit dans le livre de vie. Alors si c'est cela, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ et tu es connu de lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous fasse penser que l'Église, c'est le bien le plus précieux, c'est la perle de grand prix pour laquelle le marchand Jésus-Christ a tout vendu pour venir chercher dans la mer de ce monde, des hommes, des femmes, des buissons d'épines, pour faire de ces hommes pécheurs des enfants sauvés par grâce, entre lesquels il n'y a plus de cloison, le mur de séparation est ôté, et nous sommes un devant lui. Que Dieu répande sa bénédiction sur l'église de Glun qui se réunit dans ce lieu et qu'elle puisse être devant lui dans cette progression constante de sainteté, ressemblant de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus et que nous soyons tous unis dans l'amour, interdépendants les uns des autres. L'œil n'a pas besoin de dire au pied, j'ai pas besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres. Le chant que j'avais suggéré était chanté, on peut le rechanter, hein, Michael. Mais j'ai demandé à Edwige si elle connaissait le chant. Et là, je m'adresse à Jean-François,